fais un peu le ménage. Voilà, merci. Merci à tous ceux qui sont intervenus. C'est bien lorsque dans une église le Seigneur parle. Et j'ai envie de dire, c'est pas bien lorsque le Seigneur ne parle pas dans une église, parce qu'on n'a rien à y faire, n'est-ce pas? À quoi sert une église où le Seigneur ne parle pas? Donc ce sera un peu l'objet de la prédication d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je vais aborder ont déjà été dites ce matin. Et il y a des jours comme ça, on aimerait juste rester sur sa chaise et ne pas s'avancer, parce que tout ce qui a été dit était tellement rempli de l'Esprit de Dieu que j'espère que le Seigneur se saisira encore de chacun d'entre nous pour continuer à parler. J'aimerais qu'on aille dans 1 Samuel. On va un peu parcourir l'histoire des commencements de Samuel. Et même des commencements avant qu'il ne soit là. Samuel avait une maman qui pensait beaucoup à lui avant même qu'il ne soit né. Cette femme s'appelait Anne, et on la trouve au verset 9 du chapitre 1. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Amertume ne traduisait pas dans comme l'amertume telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est plutôt l'angoisse, n'est-ce pas? C'est plutôt le désespoir de cette femme. C'est pas qu'elle était fâchée contre Dieu ou qu'elle avait du ressentiment contre Dieu, mais elle était désespérée de sa situation. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées ». Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » On va s'arrêter là pour démarrer. Anne est une femme remarquable. Si vous parcourez les quelques passages qui parle d'elle, vous sentez que vous avez là affaire à quelqu'un d'absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Et quand on lit, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et quand vous savez comment Anne s'est investie dans sa relation avec Dieu et comment elle est allée un peu plus loin, on la voit au verset 15. Lorsqu'elle parlait, donc au verset 14, ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Je ne suis pas ivre. Je souffre en mon cœur. Elle s'était investie dans la prière. Elle était remplie du désir de voir le Dieu qu'elle appelait, qui n'était pas le Dieu d'amour, qui était l'Éternel des armées, venir à son secours pour la délivrer d'une seconde femme qui se moquait d'elle, mais aussi pour que Dieu intervienne et lui donne un fils. Et cet investissement contraste avec, je dirais, la pauvreté d'investissement du sacrificateur Élie, qui était assis à côté d'un poteau et qui, voyant cette femme ouvrir la bouche, se dit « Elle est ivre ». Peut-être que lui était ivre et qu'il n'arrivait pas à discerner entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui est ivre. Et on a là le tableau des commencements de Samuel. Une mère investie, remplie de la volonté de voir Dieu agir dans sa vie. Et un sacrificateur fatigué, usé, assis sur un fauteuil, pensant qu'elle était ivre. C'est la confrontation de deux formes de foi que nous avons là, n'est-ce pas ? La foi vivante, persévérante, fiévreuse, et l'indifférence. La foi journalière, nominale, quotidienne. Je remplis mon office, je fais les choses qu'il faut faire. Et encore, nous allons voir. Donc Anne, est une femme remarquable. Certains d'entre nous sont là parce qu'ils ont eu dans leur vie une maman remarquable, ou un papa remarquable, ou quelqu'un dans leur vie qui a été remarquable. Moi, je sais que j'avais une dame dans la famille qui était la marraine à ma mère, qui s'appelait Lydia, et qui a prié pour moi. Qui a prié. Et qui a prié sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et lorsque je lui ai appris un jour que j'étais venu au Seigneur, c'était la joie. C'était la joie la plus complète. Excusez-moi. On va aller plus loin. Samuel est né. Il est arrivé. Cette femme avait fait une promesse à Dieu. Elle lui avait dit, cet enfant sera pour toi. Si tu me le donnes, je te le donnerai. Si tu me donnes un enfant, je te le restituerai. Et elle a fait cela. Chapitre 2 et au verset 18, nous retrouvons Samuel dans le temple. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Ça faisait bien longtemps que Élie était dans la disgrâce. Ça faisait bien longtemps que Dieu ne parlait plus. Déjà, toute la période des juges, on le lit de temps en temps, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Et plus on approchait de la fin des juges, et Samuel était avec ses fils le dernier des juges, plus on approchait de cette fin-là, moins la parole de l'Éternel s'entendait. On le relit au verset 1 dans le chapitre 3, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Mais vous remarquez que Élie prie pour cette femme. Il prie pour que Dieu lui donne des enfants. Et le Seigneur exauce la prière d'Élie. Elle fait 5 enfants, l'un après l'autre. Et on peut se dire, mais comment se fait-il, quand on connaît l'histoire, comment se fait-il que Dieu a exaucé? Dieu a exaucé. Je crois que c'était la dernière prière qui a été exaucée pour Élie. Parce que Dieu s'était engagé auprès d'Aaron et de ses fils qu'ils auraient le sacerdoce. Et qu'il répondrait aux prières des sacrificateurs. Élie était sacrificateur. Et pour cette promesse qui avait été faite du sacerdoce perpétuel, Dieu s'était dit, je répondrai encore à cette prière. J'honorerai ma parole et je répondrai à cette prière. Mais, au verset 1 du chapitre 3, il est dit, la parole de l'Éternel était rare. Et ça pose une question pour nous-mêmes. Est-ce que parfois le Seigneur nous répond? Et je suis sûr que le Seigneur nous répond. Et je suis sûr que le Seigneur répond même à des gens qui ne sont pas attachés à lui. Parce que c'est dans sa nature que de pourvoir aux besoins de des hommes et de sa création. C'est dans sa nature. On l'a déjà dit aujourd'hui, nous sommes la propriété de Dieu. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. N'importe quel homme sur cette terre, n'importe quelle femme appartient et propriété de Dieu. Personne ne peut dire « je m'appartiens à moi-même », qu'il soit d'accord ou non, qu'il l'accepte ou non. Vous et moi, ceux qui sont nos voisins, ceux qui sont plus loin, appartiennent à Dieu. Et Dieu pourvoit. Dieu répond à des prières tous les jours. Des millions de prières sont exaucées tous les jours. Mais est-ce que la parole de Dieu nous vient? Est-ce que nous entendons la parole de Dieu? Ce sont deux choses différentes. Élie était un sacrificateur à qui Dieu répondait. Samuel était un jeune enfant au service du temple. Il n'était pas lévite. Il était un aide pour les sacrificateurs. Dieu parlait à Samuel. On le voit. Je vais lire le chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie. Et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, l'Éternel, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Je vais m'arrêter là. Pour Dieu, il y avait comme une sorte de passation qui était faite. N'est-ce pas? Lorsque un homme fait défaut, Dieu suscite un autre homme. Ça, Dieu ne va pas laisser l'homme déranger ses plans. Si un homme fait défaut, il va l'écarter. Ou si un homme est tué, c'était le cas de Caïn qui a été tué par Abel, il suscite un autre homme. Il suscite quelqu'un d'autre pour prendre la relève. Et Dieu avait déjà écarté Élie du sacerdoce. Il avait écarté ses fils aussi du sacerdoce. Parce que ces hommes méprisaient le sacrifice, méprisaient l'offrande qui était prévue. Pour Dieu. Vous savez ce qu'il faisait. Lorsque les gens venaient avec les animaux pour le sacrifice, eh bien, ils demandaient à un serviteur de prendre avec une fourche, ou une fourchette à trois dents, de prendre au hasard dans le pot, et tout ce qui venait, ils le gardaient pour eux. Ils le prélevaient de cette manière. C'était prévu dans la loi, que les sacrificateurs soient payés, rétribués d'une certaine manière, avec de la viande. Mais seulement selon un rituel bien précis. Il fallait d'abord brûler les graisses. Et ensuite, il y avait des morceaux spéciaux qui étaient prévus, soit la poitrine, soit l'épaule droite. Toutes ces choses-là étaient bien préparées, organisées par Dieu. Et eux avaient fait fi de tout cela. Et ils prenaient au jugé. Et en plus, ils voulaient de la viande qui était crue, qui n'avait pas encore été, dont la graisse n'avait pas encore été enlevée, parce que, voilà, ils voulaient se faire un bon barbecue, et profiter à plein de cette viande pour leur désir personnel, pour se satisfaire eux-mêmes. Et toutes ces choses avaient mis l'Éternel en colère. Donc, Dieu a suscité quelqu'un d'autre. Il a suscité Samuel. Le fils d'une femme persévérante. Le fils d'une femme exemplaire. Le fils qui connaissait un Dieu qui s'appelait l'Éternel des armées. Le fils qui avait été prêté par cette femme à Dieu. Et j'ai essayé de me mettre à la place de Samuel un petit peu, parce que Samuel a fait son apprentissage dans ce milieu, avec les fils d'Élie, qui se comportaient comme des misérables. C'est pas seulement qu'ils prélevaient la viande, ils avaient des histoires avec les femmes et toutes ces choses-là. C'était une attitude exécrable, au possible. Samuel était jeune et son éducation se faisait dans ce contexte. Je pense que sa mère a continué à prier pour lui alors qu'il était au service de l'Éternel. Alors, la symbolique est extrêmement forte dans ce passage, notamment le début du chapitre. Au verset 2, « En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. » Un sacrificateur aveugle, couché à sa place. Au verset 9, il dit « Samuel alla se coucher à sa place. » Samuel, où est-ce qu'il était? Il était dans le temple. Élie, comme sacrificateur, était aveugle, mais il était aussi sourd, d'une certaine manière. Parce que lorsque Dieu a parlé, les oreilles de Samuel entendaient quelque chose que lui n'entendait pas. Alors qu'ils étaient physiquement pas si éloignés que ça. Puisque Élie devait être à portée de voix de Samuel. Il était aveugle. Il ne pouvait pas faire les choses par lui-même. Samuel était son serviteur. Il fallait qu'Élie puisse lui parler. Donc dans un contexte proche, physiquement, Dieu parle. Et vous en avez un qui entend. Et vous avez l'autre qui n'entend rien. Et ce qui me fait peur, c'est que cela nous arrive. C'est que dans un même contexte, dans une même salle, il y ait d'un côté des gens qui entendent, et de l'autre des gens qui n'entendent pas. Et ce ne sont pas nécessairement les plus pauvres, entre guillemets, les plus jeunes, entre guillemets, qui n'entendent pas. Parfois, ce sont ceux qui ont les habits sacerdotaux. Parfois, ce sont ceux qui ont la charge, qui ont la responsabilité. Et ils n'entendent pas lorsque Dieu parle. Au chapitre 2, verset 29, Dieu fait un reproche. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël? Il était obèse, Élie. Il était gros. Il avait du mal à se déplacer. Il était aveugle. Il était obèse. Il était couché à sa place, près de l'indigence, quasiment incapable de s'occuper de lui-même. Mais il est dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. N'est-ce pas? C'était aussi quelque chose qui avait été commandé par Dieu, qu'il y ait les lampes allumées pour toute la nuit. Donc, sans doute ça se passait de bon matin. Mais symboliquement, la lampe de Dieu, lorsqu'elle est encore allumée, ça signifie qu'il fait encore jour. Et c'est encore le temps où Dieu appelle. Et c'est à ce moment-là que Dieu appelle Samuel. Samuel. Il est dit que la parole de Dieu n'avait pas encore été révélée à Samuel. Mais quand même, il l'avait entendu, cette parole. C'est dans la lumière du buisson ardent que Moïse a été appelé. Moïse. Moïse. Dans Jean 9, Jésus dit, la nuit vient, où nul, où personne ne peut travailler. Et je crois, frères et sœurs, que la lampe est encore allumée aujourd'hui. Et qu'on peut encore entendre l'appel de Dieu dans nos cœurs. Qu'on peut encore dire oui Seigneur, ton serviteur écoute. Nous avons des enfants. Nous sommes des mamans ou des papas. Nous avons des enfants qui n'appartiennent pas nécessairement au Seigneur. Est-ce que nous prions avec ferveur, ardemment, pour que le Seigneur les sauve? Est-ce que nous les avons vraiment donnés au Seigneur pour que le Seigneur les utilise? Samuel 1 Samuel 2, verset 29. D'où viens-tu? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Nous avons une mère qui honorait Dieu en lui donnant son fils. Et nous avons un sacrificateur qui méprise Dieu en honorant ses fils. Vous comprenez? Vous comprenez comment Dieu ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait? Cette femme était un exemple pour ce sacrificateur. Et il aurait dû s'en préoccuper. Il aurait dû se dire, mais c'est incroyable ce que fait cette femme. Elle me donne son fils. Alors que les miens sont en train de s'engraisser. Alors que moi-même je suis en train de profiter de ce qu'ils font. Alors qu'ils sont dans la fornication. Et elle me donne son fils. C'est hallucinant. C'est un contexte qui est surréaliste. Est-ce que nous venons dans l'Église? Est-ce que l'Église nous attire pour des bénédictions? Est-ce que l'Église nous attire pour que nous soyons engraissés spirituellement? Que nous devenions bien grassouillés et bientôt incapables de nous déplacer spirituellement, incapables d'agir, de faire quoi que ce soit? Est-ce que nous devenons des chrétiens professionnels? Aujourd'hui, c'est tout est déterminé, tout est défini, tout est conceptualisé dans l'Église. Vous avez des ouvrages en masse qui sont écrits, en sociologie notamment, et on peut vous expliquer d'où viennent les évangéliques, et on peut même vous dire où ils vont aller. Mais est-ce que nous sommes de cela, engraissés, lisibles? Je vois où tu vas aller, je vois ce que tu fais, je vois ton ministère. Ou est-ce qu'il y a encore de la vitalité? Est-ce qu'il y a encore de la persévérance? Est-ce qu'il y a encore la capacité d'être étonné, d'être surpris par Dieu? Nous sommes en danger, n'est-ce pas, de d'honorer nos enfants plus que Dieu. Nous sommes en danger de voir en nos enfants des petites merveilles. Capables. Et là où nous devrions les réprimander. Oh, Élie a bien fait une tentative, n'est-ce pas? Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ?» Et ils écoutèrent la voix de leur père. Et ils changèrent d'attitude. C'est pas ça. Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. C'est à coups de fouet que Élie aurait dû chasser ses fils. C'est à coups de bâton qu'il aurait dû les faire sortir du sanctuaire, qu'il aurait dû les bannir du sanctuaire. Et peut-être que Élie, alors, aurait épargné sa vie. Mais pour les fils, c'était de toute façon trop tard. C'est ça que Dieu lui reprochait, de ne pas avoir pris la décision radicale qui s'imposait. N'est-ce pas? Nous sommes dans un monde où la tolérance, l'indulgence est à son summum. Et si nous sommes indulgents de cette façon-là avec nos enfants, si nous avons cette faiblesse en nous, alors il faut prier Dieu. Non pas que nous devenions durs, parce que ça c'est autre chose. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas appelés à tenter nos enfants. Nous ne sommes pas appelés à être une occasion de chute pour nos enfants. Mais nous devons apprendre à être justes. Et être juste, c'est agir en fonction de la volonté de Dieu pour nos enfants. Et lorsqu'il s'agit de prendre des mesures radicales pour nos enfants, nous leur faisons du bien, même s'ils en viennent à nous haïr. Mais nous leur faisons du bien. Et nous honorons l'Éternel. Samuel n'avait pas fait ça. Élie n'avait pas fait ça. David non plus n'avait pas fait ça. On le lit dans 1 Roi, chapitre 1. Et au verset 6, David était beau, et il avait des fils qui étaient beaux. Absalom était beau. Adonijah était beau. Et il est dit, son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant, « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure. Il était né après Absalom. Et le problème, c'est que son père ne lui a jamais fait de reproche. Et lui étant si beau, et sans doute aimé de la population, aimé des gens, ça lui a monté à la tête. Et il s'est dit, je vais devenir roi, c'est obligé. Ça peut être que moi. Mais c'était pas ça que Dieu avait choisi. Ah, c'était pas lui que Dieu avait choisi. Et ça a fait toute une histoire. Et c'est Salomon qui a dû faire le travail. Faut le lire après. C'est Salomon qui a dû faire le travail que David n'avait pas fait. C'est-à-dire, là où il aurait dû tuer ses ennemis, il ne l'avait pas fait. Et il a demandé sur son lit de mort à son fils de le faire pour lui. Et il est dit, « fin du chapitre 2, lorsque tout le monde était mort, la royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. C'était le résultat des meurtres, enfin, de la justice de Dieu. Oui, mais symboliquement, ça signifie quoi? Ça signifie que ce qui, dans notre vie, est un empêchement pour le royaume de Dieu en nous, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu en nous, si nous ne passons pas ces choses par le fil de l'épée, alors quoi? Nous attendons que Dieu vienne le faire pour nous, alors que c'est lui qui nous a demandé de le faire. Dieu n'éliminera pas pour nous les choses que nous pouvons et que nous devons éliminer. Lorsqu'il nous a dit « détache-toi de ça », alors il faut se détacher de ça. Lorsqu'il vous a parlé et que vous lui avez dit « parle, ton serviteur écoute », si vous êtes parti ensuite en ayant oublié ce que Dieu vous avait demandé de faire, alors vous êtes en train de perdre pied. Vous êtes l'affermissement qui était le vôtre commence à s'éroder. Le terrain solide sur lequel vous étiez posé commence à devenir friable. Et vous êtes en danger. C'est ce qu'Élie n'avait pas fait. Il n'avait pas écarté ses fils du sacerdoce. Peut-être qu'il aurait dû lui-même s'en écarter et dire à Dieu, je peux pas. Je ne sais pas si c'était possible. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ne pas agir selon ce que Dieu nous demande de faire? On l'a vu, c'était pour satisfaire des besoins personnels. Élie, sans doute, aimait la bonne chair, il profitait de ce que ses fils prélevaient. Et voilà, ça c'était devenu un mode de vie pour lui et il vivait là-dedans. Et le danger pour nous, c'est aussi de venir sans arrêt, prélever sur ce qui est dit, prélever sur la parole de l'Éternel. Et de prélever juste ce qu'on a besoin ou ce qu'on veut, ce qui nous intéresse, de choisir les meilleurs morceaux et d'évacuer le reste. Et Jésus a dit dans le chapitre 6 de Jean, verset 26, c'est la même idée. Lorsqu'il a fait les miracles, lorsqu'il a donné à manger aux gens, il a dit, la question c'était, Rabbi, quand es-tu venu ici? Et la réponse, c'est, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez. Ah, c'est bien, vous me cherchez. Non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voilà pourquoi vous me cherchez. Est-ce que c'est ça, la recherche de Dieu pour nous? Parce que l'Église, c'est l'endroit où on recherche Dieu. Dans le bâtiment, mais corporellement, l'Église, c'est l'endroit où on recherche Dieu. C'est l'endroit où Dieu se fait entendre. C'est l'endroit où Dieu se laisse trouver. C'est pas l'endroit où on se fait engraisser. une autre raison. On l'a déjà évoqué. C'est par fierté pour nos enfants. N'est-ce pas? En fait, le problème d'Élie, c'est qu'il était plus fier que mécontent de ses enfants. C'est qu'il voyait bien que ça n'allait pas. Il leur a fait les reproches. Mais, d'un autre côté, il était sans doute assez content d'eux. Et ce qui fait que il n'est pas allé au bout des reproches qu'il devait faire. Et il les a simplement sermonnés. Je crois, et je le répète, si nous aimons nos enfants, nous devons être capables de les punir de façon sévère, des fois. Ce sont des choses qui se font dans la connaissance de Dieu. On n'agit pas avec colère, on agit avec lucidité, en sachant, en connaissant les implications spirituelles de nos propres faiblesses. Si nous nous sommes faibles vis-à-vis de nos enfants, nous déshonorons Dieu. Dans l'Église, l'Église n'est pas un endroit où on doit systématiquement se faire caresser dans le sens du poil. N'est-ce pas? Si dimanche après dimanche, semaine après semaine, on n'entend que des choses qui nous font plaisir, alors on va se dire, ah, c'est une église spirituelle, c'est une église bénie, c'est une église où je me sens bien. Frères et sœurs, nous vivons un corps, dans un corps. Les uns et les autres, nous sommes appelés à nous parler de la part de Dieu. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Nous sommes appelés à nous dire des choses. Et parfois, ces choses peuvent être désagréables à entendre. Mais il faut qu'elles soient dites. Parce que sinon, Dieu est déshonoré. Parce que si nous aimons plus faire plaisir, nous faire plaisir les uns les autres, et ne pas nous dire les choses de peur de nous vexer un peu, alors nous n'accomplissons rien d'autre que les desseins du malin. Et pas les desseins de Dieu. Alors pour finir, je vais terminer rapidement parce qu'il est l'heure. Il y a une parole que Dieu a dite chapitre 2, au verset 30. J'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Je crois que il faut deux choses dans une assemblée, dans une communauté, dans l'Église et dans nos vies en particulier. Il faut que nous soyons, il faut la réprimande et il faut le don. Il faut de la répression en ce qui nous concerne sur le péché, sur tout ce qui vient lutter contre l'avancée de la parole de Dieu dans nos vies. Il faut que là, nous soyons en mesure de repousser tous les assauts avec fermeté. Et de dire non. Et de dire non. Et de dire non. Surtout lorsque c'est des choses qui nous tiennent à cœur et dont nous sommes fiers, peut-être. Peut-être que nous avons accompli des choses. Peut-être que nous avons des qualités. Peut-être que nous sommes très forts dans certains domaines et que nous nous en réjouissons. Et cela fait notre orgueil. Et Dieu veut que nous réprimandions ces choses et que nous les écartions comme étant des choses qui vont freiner notre avancée spirituelle. Il y a une autre chose. C'est le don de soi à Dieu. La femme, Anne, elle s'est donnée à Dieu. En donnant le seul fils qu'elle avait à ce moment-là, c'est elle qu'elle a donné à Dieu. C'est sorti de chez elle, ça sortait de ce qu'il y avait, de ses entrailles. Et c'est ça qu'elle a donné à Dieu. Ce que nous produisons doit venir de la volonté de Dieu exclusivement. Ce que nous sommes doit venir de la volonté de Dieu exclusivement. Et ce que nous faisons de ces choses, nous devons les restituer à Dieu, parce que c'est lui qui nous les a données. La réprimande et le don, c'est cela qu'il faut pratiquer jour après jour dans nos vies, pour rester en accord avec Dieu, pour que Dieu se sente honoré. Alors, il nous honorera. Voilà. Seigneur notre Dieu, ta parole est si riche. Et Seigneur, nous ne voulons pas lire et étudier ta parole en faisant fi des choses qu'elle nous a apprises. Seigneur, nous voulons nous saisir de ta parole. Et nous voulons agir sur ta parole. Afin, Seigneur, que tu sois honoré dans nos vies. Afin, Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ soit honoré par l'Esprit de Dieu. Seigneur, par rapport à Samuel et aux autres, nous avons l'Esprit de Dieu avec nous, qui nous vient en secours. Et Seigneur, nous ne voulons pas regarder ces choses avec mépris. Et nous voulons t'honorer, Seigneur, en pratiquant jour après jour la réprimande et en nous donnant nous-mêmes à toi, sans arrêt, afin que tu sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen.